Corps, amour,
sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope. Calibre, une antenne libre pour poser des questions sans tabou ni jugement.
Les premiers et troisième jeudis du mois de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
J'en ai marre qu'on se moque de moi à la piscine parce que je suis grosse.
Existe-t-il autre chose que les serviettes et les tampons pour les règles ?
C'est quoi un clitoris ?
C'est fait comment ?
Comment utiliser un préservatif féminin ?
Une capote.
Est-ce que les sextoys, c'est que pour les homos ?
Ça fait quoi d'être amoureux ?
Est-ce que la jalousie, c'est de l'amour ?
Qui aller voir pour se faire poser un stérilet ?
Quels autres moyens pour éviter d'être enceinte ?
C'est grave d'être attirée à la fois par les filles et les garçons.
Et voilà, bienvenue sur Calibre, il est 20h,
à peu près.
On est bien contente d'être à l'antenne, de vous retrouver, vous qui nous écoutez, vous les masses qui vous écoutez, sur 97 FM à Grenoble et partout ailleurs sur internet, k-libre.poivron.org, donc pour le site internet, pour télécharger les émissions ou nous écouter en direct. Voilà.
Peut-être présenter un petit peu l'équipe de ce soir.
Voilà. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, donc Mélanie. Donc ça me permet de présenter l'équipe au complet ce soir. Donc Mélanie me fait signe que vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09 et donc vos appels seront pris par une équipe de trois ce soir qui va tourner à la technique. Donc Mélanie, Christelle et Maude, et il y aura aussi du coup Myriam et Emma derrière le micro pour discuter avec vous. Voilà pour l'équipe de ce soir.
Voilà, peut-être rapidement expliquer ce qu'est cette superbe émission Calibre. Donc c'est une libre antenne qu'on a décidé de mettre en place après avoir entendu que Difool et ses acolytes sévissaient toujours tous les soirs. Donc ils font une libre antenne tous les soirs sur un peu les mêmes questions que nous, enfin beaucoup ayant attrait au sexe parce que ça fait plus d'audience, et puis ils font ça dans une ambiance assez horrible de se foutre de la gueule des gens qui appellent, de rester dans des schémas hyper classiques, un peu tout ce truc de l'illusion de liberté sexuelle, mais quand même hyper normé quoi, hein. Faut faire ci, faut faire ça, plein de pression, on n'écoute pas les gens, on donne des lieux communs, tout ça. Et ben donc on avait envie nous de proposer autre chose, et on trouvait en plus que ces questions intimes étaient pas tellement discutées, enfin pas suffisamment entre les gens, amis, famille, enfin tout le monde, et on s'est dit que l'outil radio c'était un bon moyen de discuter ensemble de ça. Donc oui, il y a des personnes différentes qui tournent, et à la technique, et ici au micro. On n'est vraiment pas des expertes et des experts, c'est vraiment pas l'idée de vous dire ce qu'il faut faire, mais vraiment de discuter ensemble, sans tabou, sans jugement, comme c'est dit dans le jingle, et de voilà discuter de vos situations, vos questions, vos témoignages. Voilà, les deux seules choses qui nous importent vraiment, c'est la question du consentement dans les relations, c'est-à-dire que chaque personne se retrouve et décide de quelle relation, quelle pratique elle veut expérimenter et vivre avec les gens. Et puis la question du choix de chaque personne qui est libre de faire ses choix pour sa vie sans forcément être dans les normes, ce qu'on attend de lui, d'elle. Voilà un petit peu en gros comment on avait envie de faire ça ensemble, voilà, prendre le temps quand vous nous appelez de discuter avec vous. Donc vous pouvez nous appeler, hein, on attend vos coups de fil, je redonne le numéro de téléphone, c'est le 04 76 09 09 09. Si c'est occupé, c'est qu'il y a déjà quelqu'une ou quelqu'un en ligne, mais ce n'est pas le cas.
Voilà, donc ce qu'on vous conseille, c'est d'appeler pendant que vous écoutez, pendant que vous entendez la musique, ou pendant qu'on parle peut-être, sans que personne soit à l'antenne. En gros, le déroulé des émissions, ça sera comme d'habitude. On prend vos appels, on prend le temps de discuter, on passe une petite musique et ainsi de suite. Nous aussi, ce soir, on va prendre le temps de répondre à une question qui nous a été posée sur Internet, parce qu'on a du coup une adresse mail où vous pouvez nous écrire. On répondra pas par mail, mais on prendra le temps de répondre à vos questions à l'antenne, parce qu'on trouve que ça peut être intéressant pour les personnes qui écoutent aussi d'entendre les réponses. Donc l'adresse mail, c'est k-libre@poivron.org. Donc voilà, on va s'écouter une petite musique déjà là pour commencer.
Ouais, ok, bah, c'est parti.
Eh bien, donc c'est parti, nous avons... qu'est-ce qu'on avait programmé ?
Clarica.
Clarica, les garçons dans les vestiaires.
Les garçons ont, dit-on, des drôles de manières. Dans les vestiaires, ils boivent l'alcool au goulot, poussent des cris d'animaux, s'arrosent de parfum bon marché, ouvrent leur bière avec les pieds. Oh, les garçons dans les vestiaires. Oh, oh, les garçons dans les vestiaires. Les garçons ont, dit-on, des mœurs singulières. Dans les vestiaires, ils porteraient sur les hanches des serviettes qui, quand ils penchent, laissent entrevoir dans les vapeurs l'objet du délit prometteur. Oh, les garçons dans les vestiaires. Oh, oh, les garçons dans les vestiaires. Oh, oh, si j'étais un garçon, je saurais ce qu'ils font dans les vestiaires. Oh, oh, si j'étais Paul ou Léon, ou même un porte savon, un courant d'air. Les garçons ont, dit-on, l'humeur parfois légère. Dans les vestiaires, ils planqueraient sous leurs Adidas des revues pleines de créatures, posant nu sur des pics à glace, s'adonnant à la luxure. Oh, les garçons dans les vestiaires. Oh, oh, les garçons dans les vestiaires. Les garçons, ils se font des plaisirs solitaires. Dans les vestiaires, ils ferment les yeux sous la douche et rêvent que des filles allongés s'en viennent en bande et à pleine bouche dévorer leur anatomie. Oh, les garçons dans les vestiaires. Oh, oh, les garçons dans les vestiaires. Oh, oh, si j'étais un garçon, je saurais ce qu'ils font dans les vestiaires.
Voilà, sur Calibre, la libre antenne sur Radio 4, Kalidoscope, donc 97 FM sur votre poste, et aussi sur Internet, donc je vous redonne le site, c'est Calibre, K-C-A-S, le tiré du milieu, libre au pluriel, point poivron, comme le légume, point org, donc K-Libre au pluriel, point poivron, point org. N'hésitez pas à nous appeler, donc je vous redonne le numéro de téléphone, 04 76 09 09 09. Et en attendant que l'une ou l'un d'entre vous ait envie de discuter avec nous, eh ben, on va répondre à, donc, les questions que nous a posées Alexandra par mail. Alexandra, c'est pas son vrai prénom, c'est un prénom dont on a, qu'on a décidé tout à l'heure, parce qu'on savait pas si elle avait envie de donner son prénom ou pas. Et elle travaille ce soir, donc elle ne peut pas nous appeler. Donc on va lire en fait des parties de son mail et puis essayer de répondre aux questions qu'elle pose.
Alors, donc la première partie de son mail, je la cite, comme ça on déforme pas les propos et on répond un peu précisément, sachant que bon, les réponses qu'on va apporter, évidemment, c'est toujours un peu moins intéressant que quand on peut échanger avec la personne, mais bon, voilà. Donc, elle dit, j'avais une question sur les moyens de contraception alternatifs, en particulier les moyens de contraception naturelle, c'est-à-dire ceux qui ne sont... qui ne fonctionnent pas à partir d'hormones ou de produits chimiques. qu'est-ce qui existe comme moyen de contraception qui soit les plus naturels possibles, adapté à une fille de 19 ans et autre que le préservatif masculin ou féminin.
Voilà, donc une question sur les moyens de contraception, avec ce qualificatif de contraception naturelle qui revient. Nous, on n'est pas très... On a du mal à se dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, naturel, qu'est-ce qui est naturel, pas naturel. On a essayé de chercher des mots pour remplacer, et on n'a pas vraiment trouvé. Alors voilà, on va parler peut-être de contraception mécanique, sans intervention de produits chimiques ou hormonaux. Bon, c'est un peu long, mais si vous avez d'autres idées, on est preneuse. Donc voilà, la question de la contraception. Donc déjà, avant toute chose, je voulais juste rappeler qu'il n'y a effectivement, malheureusement, aujourd'hui que les préservatifs féminins et masculins qui protègent des infections sexuellement transmissibles. Voilà, donc quand on a envie de ne plus fonctionner avec des préservatifs, eh ben il faut bien être consciente et conscient que du coup, ben, on n'est plus protégé des IST, donc des infections sexuellement transmissibles. Voilà, ça c'était un préalable que j'avais envie de rappeler. Après, par rapport à ce que nous dit Alexandra, je voulais aussi rappeler que les contraceptions hormonales, le taux d'hormones qu'on ingère varie vraiment beaucoup d'un mode de contraception à un autre. C'est-à-dire, par exemple, la pilule, où les hormones doivent passer par le système digestif, puis dans le sang, etc., sont beaucoup plus dosées que, par exemple, l'implant ou le patch hormonaux qui, eux, sont déjà directement dans le sang ou encore sont encore moins dosés, les stérilés à hormones et puis les contraceptions hormonales qui se placent directement sur le col de l'utérus, comme l'anneau par exemple. Donc là, il y a moins de doses d'hormones qu'on injecte. Voilà, c'était une petite précision. Par rapport aux autres possibilités, donc à la question d'Alexandra, j'ai pensé aussi au stérilet au cuivre, en me demandant si ça rentrait dans ce qu'elle appelait contraception naturelle, parce qu'il n'y a pas d'hormones, mais il y a quand même une diffusion du cuivre qui va s'attaquer aux spermatozoïdes et en gros les zigouiller. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle peut envisager, et ça aurait été intéressant d'en discuter ensemble, mais voilà, comme elle n'est pas là, ben là c'est pas possible. Je pourrais vous parler peut-être un peu plus tard du stérilet au cuivre. Peut-être plus tard dans l'émission, on verra. Après, dans les méthodes mécaniques, j'ai pensé au diaphragme et à la cape cervicale, qui sont deux méthodes qui vont se placer sur le col de l'utérus. En fait, c'est des outils qu'on n'utilise plus trop, qui étaient plutôt utilisés avant, on va dire, la massification de la pilule, et qui sont donc ont une action mécanique, c'est-à-dire c'est ou une coupelle ou une cape cervicale qui est plus petite, mais qu'il faut par contre aller placer soi-même sur le col. Donc ça va dépendre aussi de quel est le rapport à son corps. Est-ce que ça nous fait pas peur, ou est-ce qu'on a l'habitude de, je sais pas, mettre des tampons, mettre les doigts dans son vagin, se toucher, voilà, des choses comme ça. Donc ça, je sais pas si ça correspond au cas d'Alexandra, si ça peut l'intéresser, en sachant qu'il faut prendre des mesures, notamment pour les diaphragmes. Donc ça nécessite une consultation avec un médecin, une consultation un peu intime pour voir quelle taille il faut, apprendre à les placer, tout ça. Et puis, ça s'utilise avec des spermicides. Donc, je me dis là, peut-être que ça rentre dans la catégorie chimique et que ça va plus. Je sais pas. Ça dépend quel est le degré d'acceptation de ce type de produit qu'a Alexandra. Bon, il y a quelque chose de ce qu'on appelle en général méthode naturelle. Ça fait référence aux méthodes où il n'y a pas d'intervention de quoi que ce soit, ni mécanique, ni chimique, ni hormonale. Mais c'est des méthodes qui sont soit très très exigeantes sur notamment le rapport qu'on a à son corps, à s'observer, soit qui sont pas fiables. Dans les méthodes pas fiables, il y a la méthode du retrait, dont on a déjà parlé un petit peu, qui est donc en gros, le gars retire son pénis avant d'éjaculer. Sauf que ça, en fait, ça marche pas du tout, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit peu de liquide séminal, c'est-à-dire le lubrifiant, on va dire, que sécrète le corps et qui sort du gland. Et ben, ce liquide-là, il comprend des spermatozoïdes. Donc il y a déjà des spermatozoïdes, c'est-à-dire si le gars va lubrifier, enfin va avoir ce liquide qui sort, et en général c'est ce qui se passe dès le début du rapport, il peut féconder la fille, quoi. Donc la méthode du retrait, c'est quand même hyper peu fiable. Et ça veut dire, si on décide d'employer cette méthode, en gros, faut pas avoir de problème avec la possibilité de faire une intervention volontaire de grossesse si on est enceinte et qu'on veut pas avoir d'enfant, quoi. C'est-à-dire, c'est des méthodes qui s'envisagent, pour moi, que en complément avec une IVG possible, un avortement possible. Donc, faut déjà avoir un petit peu réfléchi à ça. Il y a une autre chose qui se pratique, et on connaît des amis qui fonctionnent comme ça aussi, sans pénétration vaginale. Alors, du coup, a priori, s'il n'y a pas de pénétration vaginale, il n'y a pas de fécondation possible.
De pénétration avec le pénis. Hein.
Avec le pénis, oui, bien entendu. Sinon, le reste, a priori, il n'y a pas de fécondation. Enfin, a priori. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est possible de pratiquer. Après, il faut faire aussi attention, parce que si le pénis est frotté contre la vulve, il peut aussi y avoir des gouttes de liquide séminal qui passent, et puis les spermatozoïdes, ils sont quand même hyper fortiches, et en général, ils vont trouver leur but, donc vraiment, s'ils sont à l'entrée, ils vont aller se faufiler à l'intérieur et trouver le vulve, quoi, les petits salopards. pareil pour les pénétrations anales avec un pénis. S'il y a éjaculation, il y a eu des cas où le sperme a coulé et s'est subrepticement glissé dans le vagin, et où il y a eu où la personne s'est retrouvée enceinte, quoi. Donc toutes ces méthodes dites sans naturelles, sans intervention d'accessoires, on va dire, pour empêcher la fécondation, elles sont quand même exigeantes, quoi. C'est-à-dire, elles sont pas sûres à 100%, ou alors, il faut être super proche de son corps. C'est-à-dire, la troisième chose dont j'ai pas parlé, c'est l'absence périodique de rapport. Ça s'appelle la méthode Ogino. Enfin, voilà, il y a plusieurs noms. Et là, en gros, l'idée, c'est de contrôler sa fertilité, ses périodes de fertilité pendant le cycle, en fonction de plusieurs éléments. Alors, ça peut être la croissance des températures. Ça peut être surveiller l'état de sa glaire cervicale, mais là, faut vraiment, je pense qu'il faut rencontrer des femmes qui le pratiquent et qui peuvent donner des conseils aussi, en sachant que la température, il y a aussi plein de paramètres qui la font varier, la glaire aussi, donc encore une fois, c'est pas vraiment très très fiable, mais si on n'a pas d'a priori négatif, en tout cas si on ne s'empêche pas d'envisager d'avorter s'il y a un souci et qu'on veut pas d'enfant, ça peut être tenté, ouais.
Voilà ce qu'on pouvait dire à peu près sur cette première partie de question.
Bon, il y a encore peut-être un truc, mais alors là, il faut être sûr de pas vouloir d'enfant, parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'intervention chimique ou hormonale, c'est la ligature des trompes, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est une intervention mécanique où on va couper les trompes et du coup, il peut pas y avoir de grossesse. Mais bon, là, c'est vrai que pour une fille de 19 ans, faut vraiment être sûr, quoi, de pas vouloir d'enfant, en tout cas de pas vouloir enfanter. Après, il y a d'autres
possibilités. Oui, parce qu'après, on peut être parent autrement, quoi.
Tout à fait.
Ok. Et est-ce qu'on enchaîne, du coup, puisque c'est sur le même sujet, la deuxième partie de la question d'Alexandra, ouais. Qui est sur... Alors, je lis, du coup, en ce qui concerne les méthodes d'observation, de compréhension du cycle féminin pour déterminer les périodes de fertilité et d'infertilité, est-ce qu'on peut les suivre? Et si oui, comment? Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus. Effectivement,
oui, il y en a pas.
Compliqué.
Enfin, oui, c'est compliqué. Je peux essayer d'expliquer la théorie, mais la pratique, ça se passe pas pareil. Alors, je vais vous donner la théorie quand même, parce que c'est intéressant. Moi, je l'ai appris il y a pas très longtemps, de comment ça marche. En gros, la femme va ovuler, donc l'ovulation va se passer 14 jours avant le premier jour des règles suivantes. Et cet avant est assez important, parce que c'est pas 14 jours après le début des dernières règles, mais c'est bien 14 jours avant le début des prochaines. Ok. Après l'ovulation, en gros, l'ovule va aller dans la trompe, enfin, on va se balader dans la trompe pendant 3-4 jours, c'est ce qu'on appelle le petit nom, c'est la lune de miel, voilà, parce que c'est joli. Donc voilà, et donc c'est 3-4 jours qui sont après l'ovulation où on est les plus fécondes, en fait. Il faut rajouter à ça que les spermatozoïdes peuvent être vivaces pendant 4 jours dans notre corps, donc ça veut dire qu'il faut partir 4 jours avant l'ovulation, où la période la plus féconde va être, si on a un rapport, entre 4 jours avant l'ovulation et jusqu'à 4 jours après l'ovulation. Donc, en gros, ça veut dire qu'on est le plus féconde environ 18 jours à 10 jours avant les prochaines règles. Donc ça, c'est la théorie. Après, c'est bien beau parce qu'on ne peut pas vraiment prédire quand tomberont les prochaines règles, a priori. À part si on a un cycle hyper régulier, quoi. Et c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire que qu'on peut pas savoir par anticipation dans quel jour on est avant les prochaines règles. Et du coup, en particulier, c'est pas parce qu'on a ces règles qu'on n'est pas déjà dans un dans une période où il va y avoir ovulation si les cycles sont irréguliers, quoi. Donc en fait, c'est hyper compliqué. Il y a des moments, effectivement, en théorie, on est plus féconde, des moments où on l'est moins. Notamment la semaine juste avant les règles, a priori, c'est là où on est la moins féconde, mais c'est compliqué de le déterminer, quoi. Alors, je peux vous donner des exemples pour des cycles réguliers, mais c'est vraiment des cycles réguliers. C'est-à-dire que tous les mois, le cycle, il fait ou 28 jours, ou 25 jours, ou 32 jours, mais il va pas varier d'un mois sur l'autre, quoi. Voilà, donc c'est quand même... Enfin, ça arrive, il y a des filles qui sont réglées comme ça. Moi, par exemple, je le suis pas, et j'en connais pas beaucoup, en fait, qui sont autant réglées que ça, quoi. Si, toi ? Ah, super ! Bonne nouvelle. Donc voilà, par exemple, pour un cycle de 28 jours, donc 4 semaines, en gros, l'ovulation, elle se fait à J14, après le premier jour des règles. Voilà, donc la forte fécondité est entre le 10e jour et le 18e jour du cycle. Voilà, si on a un cycle de 32 jours, la forte fécondité se passe du 14e jour au 22e jour. Voilà, mais bon, ça, c'est vraiment pour des femmes qui sont hyper réglées. Donc voilà pour la question de ces méthodes d'observation. Oui, très, tout à fait. Alors Mélanie me fait signe avec une petite ardoise en me disant que en plus dans la théorie, il faut rajouter que il peut y avoir des ovulations surprises qui arrivent liées notamment à des chocs émotionnels ou des choses de ce genre. Donc encore une fois, même si la théorie est confirmée, qu'on est réglé hyper à la règle, et ben encore là, c'est pas sûr que on puisse déterminer réellement quand est-ce qu'on est féconde ou qu'on l'est pas, quoi. Voilà, donc encore une fois, si ces méthodes-là, elles peuvent aider à essayer d'avoir des rapports le moins fécondants possible, il faut pouvoir envisager la possibilité de ne pas mener une grossesse à terme si on veut pas avoir d'enfants. Et puis ça veut dire que là pour le coup, les pas de chimiques et pas d'hormones, c'est foutu, parce que l'IVG, c'est soit par des pilules hormonales qui nous font expulser, soit il y a une anesthésie locale ou générale, donc là aussi il y a des produits, quoi.
Voilà. On a fait une synthèse synthétique. Bon, en tout cas, voilà, on a essayé de répondre au mieux et puis, au plus juste aux questions d'Alexandra. Après, encore une fois, on n'a pas pu discuter avec elle, donc on ne sait pas si on est à côté de la plaque ou pas. A priori, pas trop. Mais bon, on espère que ça va satisfaire, en tout cas par rapport à ces questions-là. Il y a une autre partie de ces questions qui sont là autour des questions du plaisir, de l'orgasme et du fait que... Elle se pose des questions par rapport à cette pratique et du coup on va y répondre, mais d'abord on va se passer une petite musique et voilà, on vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09 et là du coup on va écouter Kazé.
Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants, et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon, veut être mauvais garçon, là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants, et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon, veut être mauvais garçon, là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Chez les connards, y'a deux cas de figure, y'a la soi-disant star et le fond d'art de similitude. Je crois à coup sûr que la pire des raclures, c'est celui qui souhaite être les deux. Quelle ordure. Le premier se la joue voiture et cigare et s'assure d'être vu quand il se gare. Le deuxième, je te jure, une caricature, comme par hasard, le héros de la bagarre dans son histoire. Et le troisième, lui c'est Mantise, un vrai concentré de bobards et de bêtises. Il n'est rien mais aimerait bien qu'on le courtise. Tout conscient qu'il faudrait qu'il teste toutes ses foutaises. Tu sais, leur point commun à tous, c'est qu'ils nous les cassent en long, en large et en douce. Si ça nous intéresse, ils s'en tapent, trop occupés qu'ils sont à vouloir attirer les regards et l'attention. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants, et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon, là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants, et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon, là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. ai connu des spécimens d'imbéciles heureux errés dans mon domaine. Le rap a toujours eu pas mal de phénomènes d'abrutis et de cons que la prétention m'amène. Y'a celui pour qui c'est la flamme qui domine, qui n'a aucun talent au micro et sous la mine. Celui qui peut être un militant sans raison, incapable de remplir son frigo à la maison. Et y'a ces trous du cul, ces cons et ces troufions qui prennent dur fantasme tellement sur la prison. Y'a ceux qui parlent le jour de cramer Babylone et le soir se font mettre la misère par bobonne. Y'a ceux qui parlent fort, nanana nanana, la ramène toujours, moi j'ai fait, je vais faire. Cherche à chaque fois à déclencher une guerre, et puis qu'on doit fuir au moment où faut la faire. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants, et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon, là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants, et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon, là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils veulent, ils parlent, ils ouvrent leur gueule. Qu'ils me laissent tranquille, putain j'en ai ras le bol de ces faux vandales, vantards forts en parole. Ils me gênent, pompent mon oxygène. J'imagine que leur connerie est dans leur gêne. Et ils nous infligent, sans que ça les dérange, tout ce qui voltige dans leur crâne les démange. Y'a trop de mensonges dans leurs messages, et c'est avec beaucoup de courage que j'écoute leur mirage. Trop d'énergie à vouloir donner le change, essayer à tout prix d'être ce qui les arrange. C'est dans ma tête qu'ils mentent, et puis qu'ils tentent de me persuader de ce qu'ils inventent. J'en ai marre de subir et de tenir bon. Ce soir j'ai envie de faire mourir un con. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants, et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon, là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants, et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon, là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Essaye d'être toi-même, bouffon.
Vous êtes toujours sur Calibre, l'émission sur les corps, les amours, les sexualités, en direct sur Radio Kaléidoscope 97 FM à Grenoble. Donc tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de 20h à 21h. Du coup, avant la musique, on a répondu à des questions que nous a posées une fille qui nous a écrit sur le mail de Calibre, qu'on nous on a appelé Alexandra pour respecter son anonymat, si jamais elle voulait être anonyme. Et donc, avant la musique, on a parlé de contraception, et maintenant, on va parler un petit peu des questions de plaisir.
Ouais. Alors, je vais lire encore une fois la partie de son mail qui nous concerne, comme ça, je ne déformerai pas trop ses propos. C'est parti. J'avais aussi une autre question, plus personnelle. Si vous ne pourriez y répondre, je le comprendrais très bien. J'ai tout juste 19 ans, j'ai déjà eu plusieurs relations amoureuses avec des garçons avec lesquels j'ai fait l'amour. Le problème, c'est que les relations sexuelles, en particulier la pénétration, ont été pour moi pendant longtemps plutôt désagréables, voire douloureuses. Aujourd'hui, elles ne le sont plus, mais je n'ai pas de plaisir. À chaque fois, je me disais que c'était parce que ce n'était pas le bon garçon, que je ne l'aimais pas assez, que l'on s'y prenait mal ou parce que c'était les débuts. Mais aujourd'hui, je suis avec un garçon que j'aime, en qui j'ai confiance, et je n'ai toujours pas d'orgasme. Du coup, je n'ai pratiquement jamais envie de faire l'amour, et quand on le fait, je ne mets pas beaucoup d'enthousiasme, ce qui décourage de plus en plus mon copain. Voilà, voilà, si toutefois vous pouviez me soumettre quelques idées.
Alors, c'est ce qu'on va faire là. Donc on va donner quelques pistes parce que on trouve que c'est super intéressant comme question et moi j'ai déjà envie de te dire Alexandra que je pense que tu n'es absolument pas la seule puisque tout on se pose ce genre de questions aussi. Je pense que ça fait partie de la vie quoi, enfin et aussi de comment on vit sa sexualité et quel chemin on fait là-dedans, etc. Vous pouvez réagir aussi si vous voulez nous appeler au 04 76 09 09 09. Moi, une des premières choses que j'avais envie de dire par rapport à cette question... Ouh, ça y est, j'ai tapé dans mon micro. C'est le truc qu'il fallait pas faire. C'est que déjà, on n'est pas destiné ou déterminé à avoir du plaisir ou pas. C'est-à-dire que avoir du plaisir dans les rapports sexuels avec des partenaires dont on est amoureux ou pas d'ailleurs, ça va pas être quelque chose de magique. Il n'y a pas les personnes qui ont du plaisir et les autres qui n'en ont pas. La frigidité, ça n'existe pas. Moi, je pense vraiment que c'est un apprentissage, c'est un chemin qui est plus ou moins long. Ça dépend des personnes et il faut s'enlever cette pression-là, un peu la pression au plaisir absolu à ce que tout se passe très bien, magiquement quand on est avec quelqu'un et qu'on est bien avec quoi. Donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, et ça j'aurais vraiment trouvé ça intéressant de pouvoir en discuter directement avec toi, c'est le rapport à la pénétration. C'est-à-dire que là, tu nous parles surtout de rapports de pénétration dans les rapports sexuels, c'est surtout ça qui est en question là. Tu nous dis qu'il y a quelques années c'était douloureux, maintenant ça ne l'est plus trop, mais t'as pas de plaisir à travers ces rapports-là. Moi, j'ai envie de dire deux choses. Déjà, première chose, un rapport sexuel, c'est pas que de la pénétration. Ça peut ne pas être que de la pénétration vaginale. Ça peut être plein d'autres choses. Donc, ça peut être des cunnilingus, des caresses. Ça peut aussi être une stimulation d'autres parties du corps que les parties génitales. Enfin, voilà, c'est un ensemble. Et c'est vrai que moi, je trouve intéressant de pouvoir se dire que les histoires de préliminaires, actes réels ou je sais pas quoi, on laisse tomber tout ça. Et un rapport sexuel ou un rapport intime avec quelqu'un, charnel, c'est plein de choses et on peut aimer vraiment plein de choses différentes. Donc moi, je t'invite vraiment à explorer en fait ces différentes choses, ces différentes pratiques qui peuvent être les rapports bucogénitaux, qui peuvent être des caresses, qui peuvent être la stimulation de ton clitoris par exemple, avec aussi, des vibros. On peut explorer un certain nombre de choses. Après, pour moi, ça rejoint directement la question de la communication, donc avec les partenaires sexuels. Tu dis que t'es avec un garçon depuis un certain temps et que t'as confiance en lui. Pour moi, ça vaut vraiment le coup de se poser la question de quelles paroles vous mettez sur les rapports sexuels que vous avez ensemble. Que encore une fois, moi, je crois que ça peut vraiment faire avancer le Schmilblick sur ces questions de plaisir et comment on peut se donner du plaisir, etc. Parce que c'est pas magique en fait. Je pense que c'est vraiment un chemin qu'on doit faire à deux et on peut s'aimer très fort et ne pas se donner du plaisir, même si on a très envie en fait. Donc ça vient pas naturellement et pour ça, il faut en parler quoi. Et donc ça veut dire Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire parler en dehors des rapports sexuels, donc en dehors des temps de rapports sexuels. Donc, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui est douloureux, qu'est-ce qui l'est pas. Et ça, sans se culpabiliser et sans avoir peur en fait de dire à l'autre. Je dis ça, c'est pas évident. Hein. Enfin, je pense que c'est vraiment un truc qui s'apprend et qui prend du temps dans la relation, mais. En tout cas, moi, de mon expérience, je sais que le fait d'en parler, ça m'a vraiment aidé, quoi. Et de considérer que c'est un chantier qu'on démarre à deux, et puis on sait pas combien de temps ça va durer, et puis c'est ça qui est chouette aussi, quoi. Enfin, c'est d'explorer ensemble, et puis de se raconter des choses sur qu'est-ce que ça nous fait tout ça. Ça peut être aussi d'en parler pendant les rapports sexuels, pouvoir oser dire ah bah ça non, ça oui, enfin guider un peu l'autre en fait, parce que c'est pareil, ça c'est pas inné en fait, hein, on n'est pas censé savoir ce qui fait plaisir à l'autre naturellement quoi. Voilà, j'avais envie aussi de parler de la masturbation, qui est aussi pour moi une manière d'apprendre à connaître son corps, qui là n'est pas apprendre à connaître le corps de l'autre ou connaître son corps à travers l'autre, mais plutôt toute seule en fait, dans son lit ou ailleurs, voilà, explorer là pareil son corps. Et peut-être essayer des choses en fait, et quand on est toute seule c'est pas pareil que quand on est avec quelqu'un, et peut-être on se met moins la pression aussi, et ça voilà, je pense que ça peut être aussi un moyen de d'avancer là-dessus quoi. Sachant que le dernier truc que je voulais préciser
si je peux me permettre, par rapport à la masturbation, encore une fois, il n'y a pas que de la pénétration vaginale avec ses doigts ou en gonne, hein, c'est-à-dire que la masturbation, ça va de plein de choses, il y a plein de choses, quoi. Hein, des frottements, c'est des caresses aussi. Enfin voilà, comme dans le cadre d'un rapport à deux, et ben dans le cadre de la masturbation, il y a plein de possibilités, quoi.
Ouais. Moi, je connais des copines qui se masturbent avec le pommeau de douche. Avec le jet de l'eau, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est des petites choses comme ça. Effectivement, ça passe pas à travers forcément se toucher soi directement, mais ça peut être aussi à travers un objet, un jet d'eau, enfin n'importe quoi en fait.
Ou garder ses vêtements aussi si on est plus à l'aise au début. Voilà.
Voilà. Et par rapport à ta précision sur l'orgasme, parce que c'était surtout ça en fait que tu disais, que t'avais toujours pas d'orgasme et que du coup ça décourageait un peu ton copain et tout, et ben là pareil quoi, déjà l'orgasme c'est pas obligatoire. Faut pas se mettre la pression quoi par rapport à ça. Y a aussi plein de stades de plaisir dans un rapport sexuel. On peut aussi avoir envie d'avoir des orgasmes. Ça, je peux le comprendre. Là c'est pareil. Si on a envie d'avoir des orgasmes, plus on va se stresser, plus on va se mettre la pression et moins il viendra quoi. Donc là encore une fois, c'est peut-être prendre son temps, en discuter et puis se raconter un peu ce qui nous fait plaisir, enfin tout ce qu'on a dit un peu avant et qui peut aider à avoir des orgasmes en fait, hein. Donc voilà, moi ce que j'aurais dit à Alexandra si je l'avais eu directement au téléphone.
Moi j'aurais envie aussi de lui dire plein de choses parce que son mail ça m'a vachement touchée en fait, parce que moi j'ai été pendant très très longtemps dans une situation très très similaire où ce qu'elle décrit je l'ai vécu à fond et tout, et puis aujourd'hui je pense que je m'en suis sortie. Alors je suis contente. Je voulais préciser qu'il y a des... tu l'as déjà dit, hein, mais il y a des sensibilités différentes, par exemple. Moi, effectivement, la pénétration, c'est pas mon truc, quoi. Donc maintenant, je le sais. Alors, ça veut pas dire que je la pratique pas, mais en tout cas, c'est clair que c'est pas ça qui va me donner le plus de plaisir, quoi. J'aime mieux tout ce qui est de l'ordre du titillement, des seins, du clito, des frottements, titillement de l'anus. Enfin, voilà, ce genre de truc me procure beaucoup plus de plaisir que la pénétration vaginale, c'est sûr. Oui, alors, je vois qu'on se marre en régie. Oui, j'ai dit que je me dévoilais, je me dévoile. Voilà. Il y a aussi des périodes différentes, c'est-à-dire moi j'ai eu des périodes où j'avais très envie de faire l'amour, d'autres où j'avais pas du tout envie d'avoir de rapport sexuel. Je me suis aperçue que c'était aussi lié à un moment où je prenais la pilule, c'est-à-dire que le cycle de la pilule joue vachement sur la libido. Je m'apercevais que j'avais beaucoup plus envie de rapport sexuel, par exemple, sur la semaine où je prenais pas la pilule, que sur les 3 semaines où je prenais les pilules. Alors, je sais pas si c'est psychologique ou s'il y a quelque chose de physique, mais je crois qu'il y a quelque chose de physique qui joue. Et puis, il y a des moments aussi où je suis plus dans essayer de procurer du plaisir à l'autre, des moments où j'ai plutôt juste envie de recevoir ce plaisir-là. Où je suis moins peut-être dans un échange où là c'est toi, là c'est moi qui donne. Voilà, il y a aussi des moments à discuter qui sont différents pour l'un, pour l'autre. Et puis quand j'essaye de me rappeler aussi qu'est-ce qui a pu un peu me bloquer dans tout ce parcours, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a le fait qu'il y a des fois où je me suis forcée en fait, hein, très clairement, à faire l'amour pour pas décevoir mon copain, pour pas qu'il m'aime moins. Et ça, je pense que à chaque fois, ça m'a enfoncé un peu plus dans oulala, j'ai pas envie de le refaire quoi. Pareil sur un petit peu cette pression à prendre en charge l'acte sexuel, voilà, être hyper active, passer dessus, enfin voilà, essayer plein de trucs. Voilà, ça, c'est des trucs où maintenant je me dis, là, si j'en ai pas envie, il est hors de question et je vais faire en sorte que l'autre, il le prenne pas comme un revers ou un échec. Ou... Voilà, donc pour ça, faut discuter. Je crois qu'il y avait un truc qu'a joué aussi pas mal, c'est que sur les rapports avec pénétration vaginale, j'avais peur d'être enceinte, je crois, que je sois sous pilule ou avec n'importe quelle contraception, parce que dans mon parcours, ben il se trouvait qu'à un moment je suis tombée enceinte alors que théoriquement j'étais protégée, et du coup je pense que ça a marqué aussi pendant pas mal d'années mes rapports de pénétration vaginale, quoi. C'est-à-dire que même si je savais que j'avais une contraception, et ben quelque part au fond de ma tête il y avait cette peur d'être enceinte, et je pense que ça aide pas aussi à être décontracté, à réfléchir à son plaisir, enfin voilà, parce qu'il y a tout de suite des espèces de conséquences qui arrivent, qui sont un peu reloues à gérer, quoi. Je pense que j'étais aussi, j'avais un rapport à mon corps qui était pas celui qu'il est aujourd'hui, où j'étais assez loin, j'étais pas très copine avec mon corps, encore moins avec mon sexe, la masturbation je pratiquais pas. Pareil sur mon identité, vous savez, toute cette pression de je veux pas passer pour une salope, à la fois je veux pas passer pour une frigide, donc est-ce qu'il faut que je montre que j'aime pas, enfin voilà, toute cette pression dont on a déjà un peu parlé, qui pareil, en fait je crois que j'étais beaucoup cérébrale sur mes rapports, et puis surtout j'avais pas vraiment réfléchi à fond à ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que je voulais, et du coup quand t'es avec des gars qui eux-mêmes n'ont pas non plus réfléchi, qui lancent pas forcément l'envie de discuter de sexe, qui lancent pas des expérimentations en dehors des normes, et que toi tu vas pas porter ça non plus, et ben ça reste sur une espèce de statu quo où personne n'ose rien proposer de nouveau ou discuter, et du coup ben ça a du mal à avancer, quoi. Donc moi aussi, quand j'avais un petit peu tous ces problèmes, on m'avait dit « Ah, mais c'est parce que t'es pas avec le bon gars ». À l'époque, ça m'avait fait bondir. J'avais dit « Comment ça, je suis pas avec le bon gars ? Mais si ». Bon, en fait, non. Avec du recul, effectivement, c'était quelqu'un qui était très dans les cases, quoi. Dans les cases et en termes de représentation de l'amour du couple, tout ça, et sur une sexualité assez normée, où tu déroges pas trop à la règle, quoi. Voilà, je crois que j'ai dit plein de trucs déjà, ça va suffire.
Ouais, moi je rajouterais bien, du coup ça me fait rebondir ce que tu dis sur tes ex, enfin je sais pas, enfin en tout cas s'il y a des garçons qui nous écoutent ce soir, des garçons hétérosexuels donc qui ont des rapports avec des filles, je pense que c'est intéressant d'interroger la pratique de la pénétration vaginale en fait dans les rapports sexuels, parce que ben il se trouve que et je vais pas ressortir forcément les chiffres statistiques là parce que je les ai pas en tête, mais en tout cas mon expérience empirique d'observation des pratiques autour de moi ou de ma propre expérience, c'est vraiment pas forcément la pratique sexuelle la plus appréciée par les femmes en fait. Donc il y a des femmes qui aiment, il y a des femmes qui n'aiment pas, et ça vaut le coup de se poser la question, quoi. Donc voilà, de changer un peu ses représentations sur la pénétration comme l'acte un peu ultime qui donne plein de plaisir et qui fait grimper au rideau, ben c'est ce qu'on voit dans les films de cul, mais c'est pas forcément ce qui est présent dans nos corps, quoi. Et puis autre chose par rapport à ça, on parle beaucoup de rapports hétérosexuels. Moi j'ai envie de pouvoir dire aussi à Alexandra, est-ce que ça te fait envie d'essayer des rapports sexuels avec des filles? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Voilà, c'est une piste lancée comme ça. Moi, je sais que personnellement, dans mon parcours aussi, d'avoir eu des rapports sexuels avec des filles, et ben ça m'a aussi apporté des choses que j'ai pas trouvées dans les rapports hétérosexuels. Voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, et ben j'ai plus de rapports hétérosexuels qu'il y a quelques années, mais en tout cas, j'ai pas fermé la porte à ça, et Et ça m'arrive encore de tomber amoureuse de filles ou d'avoir du désir pour des filles. Et c'est aussi des rapports qui m'ont fait découvrir des choses, quoi, sur les plaisirs qu'on peut avoir différents, etc., quoi. Donc voilà, c'est un peu aussi une piste, quoi.
Donc Alexandra, on espère vraiment qu'on a répondu aux questions que tu te posais et puis que vous qui nous écoutez, s'il y a des gens qui nous écoutent, vous avez pu en tirer ce que vous voulez. On va finir peut-être sur des petites pistes de textes ou autres à consulter si vous avez envie de continuer.
Est-ce qu'on se passe une musique avant ou est-ce qu'on enchaîne là-dessus
On peut finir là-dessus, passer la musique et puis...
Ok, alors du coup là c'est Emma qui reprend le micro. Moi j'avais noté quelques trucs en fait que je trouve vraiment inspirants en fait sur ces questions de sexualité, plaisir, rapport au corps, etc. qui sont gratuits. Alors autant aller les voir et les lire. Concernant des choses à lire sur ces questions-là, il y a un site internet qui s'appelle infokiosque.net. Donc infokiosque, OSQES.net et c'est un peu une bibliothèque en ligne, on va dire, avec des brochures qu'on peut télécharger, qu'on peut consulter directement en ligne. Et dans la rubrique féminisme, femmes, sexualité, genre, etc., il y a notamment une brochure à laquelle j'ai repensé cet après-midi qui s'appelle Plaisir de femme et qui est une brochure vachement chouette qui parle qui sont en fait des témoignages d'expériences. Donc c'est des filles qui parlent de leur pratique sexuelle à plusieurs, à deux ou toutes seules, et qui reviennent un peu sur le clitoris, le vagin, mais aussi d'autres zones du corps et qu'est-ce qui leur procure du plaisir, qu'est-ce qui leur procure pas de plaisir, etc. Et ça, de lire aussi des témoignages des autres, parfois c'est inspirant et ça peut nous donner des idées. Donc je vous invite à aller voir ce site. Il y a aussi une brochure en ligne qui s'appelle Self-Frisson, qui est exclusivement sur la masturbation. Et ça, c'est moi, à l'époque, quand je l'ai lu, j'avais trouvé ça aussi intéressant et inspirant à lire. Et aussi une autre brochure qui s'appelle Les témoignages des chattes. Et celle-là, elle est assez marrante aussi. On peut aller voir. En ce qui concerne d'autres supports que de la lecture, par exemple des films ou documentaires, il y a ce fameux documentaire qui s'appelle Le clitoris, ce cher inconnu, qui est un documentaire qui était passé sur Arte il y a quelques années et qui est trouvable maintenant, pareil, en ligne sur Internet. Il faut taper le titre du film Le clitoris, ce cher inconnu, qui est un documentaire, donc, et pareil, là, qui revient un peu sur c'est quoi le clitoris, comment est fait un peu le corps des femmes, et c'est aussi assez intéressant, quoi. Tout n'est pas bien dedans, notamment c'est un peu hétérocentré, je trouve,
mais carrément normé, tout le monde hyper rasé de partout.
Voilà, bon, les corps représentés sont des corps qui rentrent bien dans la norme et tout, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des choses à prendre dans ce documentaire et qui peuvent nous apprendre. Qui peuvent nous apprendre des choses, quoi. Sinon, en fiction, moi j'ai vu et revu un film il n'y a pas très longtemps, j'en avais parlé dans une autre émission enregistrée, un film qui s'appelle Short Bus, qui est une fiction en fait, réalisée par je ne sais plus qui. En tout cas, j'ai trouvé ce film assez sympa, et notamment dans les personnages présents dans ce film, il y a une femme qui a le rôle d'une sexologue qui est en couple hétérosexuel depuis très longtemps avec son copain et tout ça, et il se trouve que elle est sexologue, sauf qu'elle a jamais eu d'orgasme. Et elle est un peu triste de ça, et du coup ça m'a refait penser à ça, ton mail, Alexandra, et peut-être si t'as l'occasion de voir ce film, regarde-le, et parce que c'est traité de façon très différente, et c'est assez chouette ce film, parce que on a tout un panel de personnages et de parcours de vie très différents. Il y a des personnes dans ce film qui sont en couple, qui sont très amoureux. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas en couple et qui ne recherchent pas ça. Il y a des personnes qui vivent un amour à trois. Il y a des personnes homosexuelles, hétérosexuelles, bisexuelles. Il y a des personnes qui n'ont pas de rapport sexuel avec les autres parce qu'elles en ont pas envie. voilà, on retrouve tout un panel comme ça et c'est assez chouette aussi, je trouve, même si pareil, encore une fois, tout n'est pas bien dans ce film. C'est aussi inspirant et c'est chouette de pouvoir le regarder. Et si t'as l'occasion de le regarder avec ton copain, par exemple, et ça peut être une technique pour amorcer des discussions sur la sexualité, quoi. Parce que dans ce film, on voit plein de sexualité, on voit plein de pratiques sexuelles et ça peut soit nous stimuler, soit nous inspirer et être un bon moyen pour enclencher la discussion sur la sexualité, quoi. Voilà,
tout ce qu'on pouvait dire, enfin pas tout mais une bonne plein de choses en tout cas déjà. On va se passer à un autre morceau de musique avant chères auditrices, chers auditeurs, sachez que nous sommes très tristes ici en studio parce que la dernière émission que nous avons fait Emma et moi, eh bien il y avait un problème technique et nous ne pouvions pas avoir de conversation avec les gens au téléphone. La dernière émission s'est très bien passée et aujourd'hui nous revoilà et qu'est-ce qui se passe? Personne ne nous appelle. Alors ça va pas du tout. Donc s'il vous plaît, soyez sympathiques pour cette 10 dernières petites minutes que quelqu'un ou quelqu'un nous appelle pour discuter, même de petits trucs, on s'en fout, c'est pas grave, de tout. Donc je redonne le numéro.
Pour nous dire que notre émission est géniale.
Voilà. Enfin... Bon par contre si ça vous plaît pas, vous pouvez vous abstenir. Non, c'est pas vrai. Donc 04 76 09 09 09. En plus, c'est facile, 04 76 09 09 09. Et puis, donc, en attendant que vous nous appeliez, on va s'écouter une musique de Caro qui s'appelle « Un garçon en mini-jupe ».
Je marchais dans la rue. Cet inconnu, un garçon en mini-jupe, oui, un gars en mini-jupe, c'était foudroyant, ah oui, c'était brillant. Je l'ai suivi
Oui,
Voilà, sur Calibre, on est reparti ensemble à l'assaut du micro, donc la libre antenne sur Radio Kaleidoscope. Aujourd'hui, on est le jeudi 5 novembre et nous sommes en direct. Le prochain direct, ce sera le jeudi 19 novembre et entre temps, vous aurez le loisir d'écouter des rediffusions de l'émission d'aujourd'hui. Mais ce sera donc trop tard pour nous appeler, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Donc je vous redonne le numéro, le 04 76 09 09 09.
Et voilà, et donc on discutait un peu là avec Myriam de qu'est-ce qu'on va blablater après la musique, et on voulait juste vous rappeler que parmi les questions qu'on souhaite aborder dans cette émission, il y a effectivement les sexualités, le rapport à l'amour, les relations affectives, etc., mais aussi les questions de rapport au corps, et notamment parce que c'est des questions qui sont pas souvent abordées et qui sont compliquées aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si j'enchaîne sur...
Alors,
parce que là, on vient
de voir
le téléphone fonctionner, donc voilà.
On a décidé
autoritairement de dépasser le temps qui nous a imparti.
Et voilà, on va se faire engueuler demain par les chefs de Radio Kaleidoscope.
Mais tant pis, on assume, on va prendre l'appel, même s'il nous reste que 5 minutes. Allô, allô ? Allô, est-ce que tu nous entends ?
Oui.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Donc, un garçon. Bienvenue sur Calibre. Hein, c'est chouette de nous appeler. Non, en fait, je disais un garçon parce que la musique qu'on écoutait avant, c'était un garçon en mini-jupe. Alors, ça me fait rigoler. Voilà. Alors, vas-y, hein, à toi l'antenne.
Ben, en fait, j'ai une question qui est pas très facile parce qu'en fait... En fait, j'ai une IST et je suis en train de le traiter actuellement, donc avec des antibiotiques et tout ça. Mm-hmm. Mais je me dis que si un jour j'ai envie de retrouver, revenir à une vie sexuelle, de recommencer à vivre pleinement une vie sexuelle, j'ai envie d'être sûr que, d'être bien dans ma tête et tout ça. Mm-hmm. Et du coup, je me demandais. Les filles, c'est pas un truc facile d'aller voir le gynéco et tout ça, mais bon, on sait où aller, faut aller voir un gynéco. Et en fait, pour les garçons, j'ai entendu dire qu'il fallait quand même aller voir un médecin, un toucher rectal, un toucher de la prostate de 5 minutes pour s'assurer de si on est encore infecté et tout ça. Mmh. Du coup, je me demandais si vous avez des réponses par rapport à cette question et tout ça.
Bon. Je veux juste redire qu'on n'est pas du tout médecin, donc on va donner les réponses, apporter ce qu'on va pouvoir apporter, mais effectivement, ça n'empêche pas de poser ces questions à une personne qui est médecin. Est-ce que tu sais ce que c'est comme IST ? Et c'est quoi comme...
Non.
Tu sais pas. Et du coup, tu prends un traitement par rapport à quoi ?
Je me rappelle plus du nom, mais c'est une saloperie. Ouais, c'est une IST, quoi.
D'accord, parce qu'il y en a quand même... plein de différentes qui sont contagieuses ou pas sur des dans une durée qui est différente, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de pas savoir
j'aurais aimé savoir si vous connaissiez dans la région Isère des gens qui étaient avec qui il était facile de discuter de ça et tout ça, des médecins qui c'est jamais facile d'aller montrer son cucu à un médecin pendant un quart d'heure
C'est sûr. Moi, je te conseillerais le planning familial, en premier rendez-vous, parce que c'est des gens qui sont là aussi pour écouter, qui vont pas forcément aller droit te tripoter si c'est pas toi ton envie, là où t'en es. Donc ça peut être intéressant de passer par le planning familial. T'es sur Grenoble ou t'es ailleurs? Ouais. Parce qu'on a des listes un peu par ville.
Non, je suis vers Grenoble.
D'accord. Du coup, t'as le planning familial qui est donc l'association qui est boulevard Gambetta sur Grenoble. Je sais pas si tu vois où ils sont.
Je vois le boulevard Gambetta, oui.
Voilà. Du coup, c'est en gros à la hauteur de quand le boulevard croise l'avenue Lady Guerre où il y a le lycée Champollion. Voilà, en face
d'accord,
du lycée.
D'accord.
Voilà, et après, il y a des centres de planification qui, eux, donc, ne sont pas une association, mais sont, dépendent du département, de l'Isère. Et là, il y en a un petit peu partout, quoi. Il y en a à Saint-Martin-d'Air, à Saint-Égrève, il y en a un petit peu partout en Isère.
Peut-être que, donc là c'est Emma au micro, par rapport à tes questions, moi j'ai pas très bien compris et je veux bien que tu nous précises du coup, parce que donc il y a cette première partie de questions à laquelle vient de répondre Myriam, donc effectivement consulter, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut te donner. Au planning familial, c'est des personnes normalement plutôt chaleureuses, accueillantes et qui vont pas chercher à te faire vivre des choses que t'as pas choisies, donc c'est aussi pour ça qu'on te conseille d'aller les voir elles. Après, concernant les pratiques sexuelles, toi tu disais du coup pour moi c'est difficile. Est-ce que tu peux préciser ça? En quoi c'est difficile? Toi t'as peur en fait de transmettre cette IST, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
D'accord.
En fait, pour l'instant j'ai une partenaire sexuelle régulière et donc on se protège pendant toute la durée du traitement et tout ça, mais je me dis que peut-être que ça sera pas éternel et que j'ai, enfin, à un moment donné, j'aurai quand même besoin d'avoir la certitude par rapport à ça, et j'ai juste une certaine anxiété à aller, enfin, je sais pas vraiment où aller et tout ça, mais du coup, j'ai sans doute essayé d'aller au planning familial une fois que le traitement sera terminé.
Ouais. L'incertitude, c'est vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de nouvelles partenaires?
C'est vis-à-vis de moi.
D'accord, parce que je pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a des moyens des prises de sang pour vérifier si c'est une infection avec des germes ou des prélèvements ou des trucs qui font que tu peux être sûr que l'infection est partie. Après, ça n'empêche pas une nouvelle contamination lors d'un nouveau rapport. Mais a priori, il y a des moyens de vérifier que l'infection soit bien partie, quoi.
D'accord.
Et comment elle a été déterminée, cette IST? Enfin, tu dis que tu as un traitement, du coup, c'est un médecin qui te l'a prescrit?
En fait, tout s'est fait... ça a été déterminé grâce à ma partenaire qui, elle avait des démangeaisons, donc du coup, elle a été voir un spécialiste, un gynéco, et qui lui a fait tous les examens nécessaires, prise de sang, en effet, tout ça, et du coup, on a pris un traitement similaire. Du coup, moi, en fait, dans ce jeu-là, j'ai eu un rôle assez minime, quoi. J'ai juste à prendre le traitement et à attendre et à me protéger, tout ça.
Ok.
Du coup, voilà, c'est encore elle qui a assumé tout ça, mais... Enfin voilà, c'est un traitement assez long et tout ça, et quand ce sera fini, j'ai envie que tous les deux on soit soignés, que ça soit pas un truc qui se répande, et que voilà, et qu'il y ait d'autres personnes qui soient touchées par ça.
Ouais. Effectivement, il y a ces deux pans, c'est-à-dire entre vous deux, si vous arrivez au bout du soin, que vous vérifiez que tout va bien, bon bah c'est à vous de voir comment vous voulez continuer à avoir des relations. Après, effectivement, s'il y a des envies, des désirs ou des occasions d'autres relations, c'est important aussi de penser comment ces relations seront protégées. C'est-à-dire, c'est pas parce que toi tu seras guéri de cette IST qu'il y en a pas pléthore d'autres, et celles-là aussi qui peuvent aussi recommencer à circuler, quoi. C'est-à-dire, dans tous les cas, quand il y a des relations multiples, c'est important de se poser cette question de protéger les autres partenaires aussi, qu'il y ait eu IST déjà ou pas, quoi.
Ouais. Bon, en tout cas, ce qu'on peut rappeler pour toutes les auditrices et auditeurs, c'est que le meilleur moyen de se protéger des IST, bah, ça reste les préservatifs masculins ou féminins. Du coup, vous, enfin toi là, dans le cadre de ta relation actuellement, comment vous gérez par rapport à cette IST en dehors des traitements?
Tu me parles de ma vie sexuelle?
Ben, je sais pas, hein, si jamais t'as envie de pouvoir dire.
Ça a pas franchement marqué notre couple, on a continué d'avoir une vie normale, et voilà, en fait c'est pas un truc très très lourd.
Ouais.
Enfin voilà, on se protège, on fait attention, parce qu'en fait je crois que ça tu peux te recontaminer à chaque fois que tu as un rapport non protégé, et du coup voilà.
Ouais, c'est ça.
Je suis attentif par rapport à ça, et voilà.
Donc vous utilisez des préservatifs?
C'est ça.
Ah, ok. Ouais, okay. Bah voilà, je pense après, comme on disait au début, hein, peut-être continuer à utiliser des préservatifs pour le moment, et une fois que tu auras été peut-être consulté au planning familial ou je sais pas, un autre médecin de ton choix en qui t'as confiance, et ben pouvoir vérifier que t'es que c'est bon, quoi. Enfin.
En tout cas, j'ai envie de dire, c'est déjà chouette que vous suiviez le traitement tous les deux, parce que ça arrive pas à chaque fois. Ça arrive que ce soit une des personnes du couple ou des partenaires qui se fasse soigner, l'autre pas, et du coup, effectivement, ça, il y a des risques de recontamination beaucoup plus forts, quoi.
D'accord.
Et je crois, a priori, qu'on n'est pas obligé d'aller consulter. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais c'est-à-dire si ta partenaire ou ton partenaire va consulter à le traitement, a priori, il peut avoir le traitement pour son partenaire sans que cette personne soit obligée d'aller consulter. Enfin, c'est déjà arrivé, quoi.
Ouais, bah c'est ça, c'est ce qu'on a
fait. Bah là, c'est ce qui s'est passé, ouais.
C'est pas très égalitaire comme... Mais bon, si ça marche.
Ouais. Ouais. Est-ce que toi t'avais envie de dire d'autres choses par rapport à ça? Est-ce que
je crois que non, mais en fait le planning familial, j'avais l'intention d'y aller quand même, mais en fait je me demandais s'il y avait vraiment d'autres, enfin si un gynéco pour monsieur ça existait ou pas ou.
Ah. Ok.
Alors, les gynécos pour monsieur, on nous a écrit sur une petite ardoise depuis la régie, ça s'appelle des andrologues, tu vois, moi je savais pas. Donc peut-être que sur internet ou sur les pages jaunes, tu peux trouver des spécialistes andrologues, donc A-N-D-R-O, log comme les autres.
Après, effectivement, dans le milieu associatif, on va dire prévention, sexualité, santé, etc., il y a d'autres associations sur Grenoble, quoi. Il y a AIDS... Enfin, je sais pas si c'est ça ta question, mais c'est vrai que nous, on t'a orienté directement sur le planning familial. Ça peut ne pas être que le planning familial. Ça peut être aussi d'autres associations qui sont là sur des questions de prévention, information, santé, sexualité. Donc, moi, je cite AIDS. Il y en a d'autres aussi.
En tout cas, je pense qu'au planning, ils pourront te renvoyer vers des andrologues. Enfin, j'imagine que eux, ils doivent avoir aussi cette question des hommes qui viennent consulter assez fréquemment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'andrologues que de gynécologues.
Ouais.
Bon, et ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Hein. Ben, écoute, de rien. Merci d'avoir appelé.
Oui, c'est gentil.
Et puis, mais tiens, par curiosité, comment t'as eu connaissance de l'émission de radio?
Par les affiches dans la rue.
Ah, super!
Génial!
Bon, ça vaut le coup qu'on fasse des collages, alors. Bon, ben, merci à toi, et puis bonne soirée. N'hésite pas à rappeler si jamais t'as besoin.
Je me permets de vous dire que votre émission est très bien et qu'il faut continuer.
Ah, bah, merci. Tu bientôt. Quittes pas, hein, Christelle va te reprendre au téléphone.
D'accord.
Salut. Bon, voilà.
Et ben, ça fait plaisir de discuter avec les gens. Bon, par contre, je crois qu'il va falloir qu'on arrête. Hein,
je crois qu'il faut rendre l'antenne. Oh,
c'est triste, sûr. Mais c'est comme ça. Bon. Bah voilà, c'était donc ce jeudi 5 novembre, la troisième émission en direct de Calibre. Jeudi prochain, donc ça doit faire le 12, il y aura une rediffusion de cette émission. Et la prochaine émission en direct, c'est le 19 novembre. Voilà, on n'a pas le temps de remettre une petite musique, donc on va terminer tranquillement avec notre beau jingle.
Voilà, alors merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés, et puis à jeudi prochain. Corps, amour,
sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre pour poser des questions sans tabou ni jugement. Les premiers et troisièmes jeudis du mois, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.